Nzamba.
Nzambi la samirana. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal en français de la radio Nzamba, Agathe Kakaoué. Les titres de ce mercredi 18 août 2021. Cri d'alarme des défenseurs des droits de l'homme sur la situation au Burundi. Préoccupés par la montée de la criminalité dans le pays, une quarantaine d'organisations appellent les Nations Unies à la vigilance. Grogne des employés des sociétés des jeux de hasard et de paris sportifs, beaucoup d'interrogations sans réponse au sujet de la reprise des activités de ces sociétés, activités suspendues depuis 2 mois. Le silence des responsables de la loterie nationale les révolte. Et puis la peur règne au sein des déplacés du site Chamhazi à Kayanza dans le nord du pays. Ils disent n'avoir plus donné de la tête après avoir été sommés de quitter ce site par l'autorité communale. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Valérie Moucho.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons ce journal avec ces inquiétudes des déplacés du site de Chamhazi en commune Muruta. Nous sommes dans la province Kayanza au nord-est. En cause, l'administrateur de cette commune menace de les expulser de ce site créé lors de la crise de 1993. La raison, selon cette autorité communale, est qu'une usine de thé va être construite sur le terrain où est érigé ce site. Ces déplacés demandent au gouvernement de revenir sur cette décision en attendant que le pays redevienne paisible. Les détails avec Diane Nkurunziza.
Comme l'affirme des sources se trouvant dans ce site, c'est la peur totale au sein de ces déplacés qui sont menacés d'être expulsés par l'administrateur communal Hatimana Odas. Celui-ci leur a annoncé qu'ils doivent avoir quitté ce site avant le 18 de ce mois et donc ce mercredi. Ces déplacés affirment qu'ils ont été étonnés d'entendre une telle annonce car ils n'ont pas été informés de leur avenir après leur expulsion.
Ils veulent construire une usine de thé. Ils nous ont donné un délai de 2 mois jusqu'au 18 de ce mois-ci pour quitter le site. Depuis ce jour, on leur a ordonné de construire leur propre maison et que la commune va leur aider pour la toiture. Il y a ceux qui ont déjà finalisé les constructions et d'autres qui sont incapables à bâtir ces maisons et qui ne savent pas où aller pour le moment. On leur a dit que s'ils refusent de se bâtir leur maison, on les trouvera un autre endroit par la force.
Ces déplacés estiment que l'usine devrait être construite sur un autre espace afin de préserver leurs habitations. Ils demandent au gouvernement de revenir sur cette décision.
Nous sommes inquiets. Ils cherchent déjà à nous diviser dans le site. Une fois arrivés dans nos maisons respectives, ils vont nous arrêter un à un comme ils le veulent. Nous demandons au gouvernement de se ressaisir et de suspendre cette décision et de patienter afin que le pays soit paisible et qu'on puisse retourner sur nos collines d'origine. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a la paix au pays.
La rédaction de la radio Nzamba n'a pas pu joindre par téléphone Hatimana Odas, administrateur communal de Muruta, ainsi que le gouverneur de la province Kayanza, colonel Rémi Tishahayo, pour nous donner des éclaircissements sur la décision d'expulsion des déplacés de ce site. Pour rappel, ce site de Chamhazi a été ouvert en 1993 pour héberger les rescapés des massacres des Tutsis. Aujourd'hui, il compte plus de 1000 ménages.
Les déplacés de l'intérieur du pays de 1993 ont toujours subi une persécution de la part du gouvernement CNDD-FDD dans le but de les contraindre à retourner sur leur colline d'origine. C'est l'avis de l'opposant Charles Nditije, président de l'UPRONA de l'opposition, qui estime que le gouvernement devrait prendre des mesures afin d'empêcher l'administrateur de la commune Muruta de persécuter les déplacés du site de Chamhazi. On l'écoute.
On comprend très mal comment on peut forcer ces déplacés à rentrer chez eux, alors qu'aujourd'hui, les Imbonerakure, les chefs de colline, certains policiers sont ceux-là même qui les ont pourchassés, qui ont contribué à leur insécurité et qui ont fait qu'ils soient obligés d'offrir leur propriété pour ne pas se faire tuer comme les autres Tutsi et Hutu-Liprona qui ont subi le sort après l'assassinat du président. Ce n'est pas normal donc que cette chasse à l'homme se poursuive, que cette persécution se poursuive parce que la sécurité n'est pas garantie pour ces déplacés. Je pense que ce qui se cache derrière, c'est qu'on veut les faire rentrer chez eux pour qu'ils puissent facilement attenter à la sécurité qui en a persécutant, qui en tuant, qui en enlevant celui-là, parce que quand ils sont ensemble dans les camps de déplacer, quand il y a l'insécurité, quand les Imbonerakure menacent, ils se mettent ensemble pour crier, pour se protéger, mais quand ils sont isolés, ils sont plus vulnérables. Nous demandons donc à ce que cette persécution puisse s'arrêter et que le gouvernement, le gouverneur de Kayanza puisse intimer l'ordre à cet administré de Muruta pour qu'il arrête cette persécution et qu'il laisse les déplacés en paix. Ils sont suffisamment malheureux, il ne faut pas qu'il ajoute le drame au drame.
Restons dans la province de Kayanza pour un tout autre sujet. Cela fait plus de 10 jours que 9 militants du parti d'opposition CNL à Gatara sont en garde à vue dans les cachots du commissariat provincial de police. Ils sont accusés d'avoir agressé le conseiller principal de l'administrateur. Des accusations que les habitants de Gatara rejettent en bloc. Ils demandent plutôt la libération inconditionnelle de ces 9 militants de ce parti d'opposition. Plus de détails avec Josine Kadze.
Ces membres du Parti Congrès National pour la Liberté et CNL en abrégé, au moment de leur interpellation, ils étaient au nombre de 10. Ils ont été arrêtés au début de la semaine passée par le conseiller principal de l'administrateur Julien Manirakiza en compagnie de certains Imbonerakure de la localité selon les sources de la radio Inzamba à Gatara. Cette autorité les accusait de l'avoir malmené. Témoignage d'un habitant de Gatara.
Ils ont commencé par arrêter 2 rapatriés. Ils ont été relâchés le lendemain, mais les 10 sont restés en détention. Un parmi eux a été également relâché. Nous demandons la libération de ces autres car ils sont des innocents. Leur famille effectue des navettes vers Kayanza pour leur apporter à manger.
Les habitants de Gatara font savoir que ces membres du parti CNL ont seulement demandé de savoir les mobiles qui seraient derrière l'arrestation de 2 hommes qui venaient d'être rapatriés de l'Ouganda. Ces rapatriés sont Eric Nsekela et Jean Miburu. Ils ont été relâchés le lendemain de leur interpellation, continuent les mêmes sources, mais 10 membres du parti CNL ont été conduits dans les cachots du commissariat provincial à Kayanza pour plus d'enquêtes sur ordre du gouverneur de province, le colonel Rémi Chichahayo. Mardi de la semaine en cours, toujours selon les sources à Gatara, un parmi les 10 a été relâché. Il s'agit du nommé Augustin Kahana. Les habitants de Gatara demandent la libération inconditionnelle des autres parce qu'ils n'ont commis aucune infraction selon leur dire.
Nous demandons à ceux qui le peuvent de plaider pour leur libération. Ces accusations d'avoir malmené le conseiller principal de l'administrateur sont fausses. Tout le monde est témoin. C'est leur habitude. Quand une personne est arrêtée, les éléments du dossier peuvent être changés à tout moment.
Ces membres du parti CNL qui sont toujours en garde à vue à Kayanza sont Adeline Zeimana, Stanley Kana, le surnommé Chitkwaye, Deo Kayovera, Donatien Atarobari, Aboubakar, Daïdze et Alias Kagwena, Félix et Claude, appelés souvent Cloud. Les membres du parti CNL sont souvent victimes ces derniers jours de ce qu'ils qualifient de harcèlement dans plusieurs coins du pays. Certains sont victimes de détentions arbitraires et d'autres sont souvent victimes des enlèvements qui sont suivis des fois par des disparitions forcées. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre par téléphone le colonel Rémi Chichahayo, gouverneur de la province de Kayanza, pour éclairer l'opinion sur la détention de ces 9 membres du parti CNL.
Et puis cette nouvelle brève, trois juges ont été arrêtés et mis sous les verrous hier mardi. Il s'agit du vice-président du tribunal de grande instance de Moua dans la mairie de Bujumbura et de deux autres juges de la même juridiction. Tous siégés pour statuer sur une affaire foncière. Ils sont accusés entre autres d'avoir perçu des pots de vin de 7 millions de francs burundais. Nos sources auprès du tribunal de grande instance de Moua révèlent que la personne qui aurait corrompu ces trois juges a également été arrêtée. Le tribunal de grande instance de Moua est actuellement sans président. Le précédent président de ce tribunal avait été récemment muté. Clément Nkurunziza plaide toujours non coupable. L'ancien président de l'Association des étudiants de l'Université nationale du Burundi, ACER en sigle, est incarcéré depuis mars 2018 dans le dossier en rapport avec les massacres des étudiants Hutus en 1995 au campus Mutanga de cette université. Et depuis sa cellule à la prison de Ngozi, au nord du pays, Clément Nkurunziza vient d'envoyer une correspondance au président de l'Association des rescapés, Zirikana UB 1995, et lui demande le sort à réserver à sa détention qu'il qualifie d'injuste et d'illégale. Le point avec Josephine Jones-Munzimana.
Comme le dit Clément Nkurunziza dans cette correspondance, la décision de saisir le président de cette association, Zirikana, a été motivée par le souci de savoir la suite à réserver à sa situation carcérale qu'il juge illégale et sans fondement. Clément Nkurunziza reconnaît que la sollicitation du président de l'association Zirikana à la justice burundaise pour la suspension de l'instruction juridictionnelle de son dossier a eu gain de cause en mars 2021 par la décision de la cour d'appel de Bujumbura. Il estime que depuis lors, il est détenu sur base d'aucun titre judiciaire. Clément Nkurunziza rappelle aussi que depuis mars 2018, l'instruction de son dossier a été émaillée de beaucoup d'irrégularités et que la vérité a été sacrifiée au bénéfice du mensonge. Il constate avec amertume que le rôle de l'association Zirikana pour la défense des victimes de ces événements est trahi par des gens qui essaient d'occulter délibérément la vérité. Pour Clément Nkurunziza, les vrais auteurs des crimes sont à chercher auprès de ceux-là qui représentaient les étudiants au moment des faits, les autorités rectorales d'alors et les forces de sécurité stationnées au campus Mutanga la nuit des tueries qui ont visé les étudiants Hutus. Avec toutes ces informations, il pense que l'association Zirikana pourra dégager la vérité au grand jour. Nous avons cherché à voir la réaction du président de cette association par rapport à cette requête de Clément Nkurunziza, mais sans succès. Vous saurez que Clément Nkurunziza est incarcéré à la prison de Ngozi depuis le mois de mars 2018. Le substitut du procureur général de la République avait requis une peine d'emprisonnement à perpétuité à son encontre, l'accusant d'être impliqué dans ces massacres de 1995 au campus Mutanga, ce que le concerné balaie d'un revers de la main.
Inzamba. Poursuivons cette édition avec cette préoccupation des organisations nationales et internationales qui luttent pour les droits de l'homme. Elles s'inquiètent de la situation sécuritaire au Burundi dans une lettre adressée aux représentants des États membres et observateurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle montre que la situation sécuritaire se dégrade au Burundi au moment où il est prévu la 48e session du Conseil au mois de septembre et octobre. Ces associations appellent à la vigilance de l'ONU sur le Burundi car la criminalité monte au galop. On écoute Armel Nyongere, le président de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT, un des signataires de cette correspondance.
Et nous avons demandé et que le Conseil continue à poursuivre son examen minutieux de la situation et son travail en faveur de la justice et de la redevabilité au Burundi. Et nous avons démontré qu'il y a une absence d'amélioration structurelle et à la lumière d'une récente augmentation des violations des droits humains contre les personnes perçues comme des opposants au gouvernement. Et nous avons montré qu'il y a beaucoup d'arrestations arbitraires, beaucoup de disparitions forcées, beaucoup de cas de détention arbitraire, et nous considérons qu'il n'existe aucune base ni progrès mesurable qui justifierait un abandon de l'approche actuelle ou un renouvellement du mandat de la commission d'enquête. Et donc, nous avons demandé à ce que la résolution qui sera adoptée par le Conseil devrait reconnaître que malgré quelques avancées observées lors de l'année écoulée, la situation des droits humains au Burundi n'a pas changé de façon substantielle ou durable. Et nous avons aussi demandé à ce que le Conseil évite d'envoyer au gouvernement burundais et des signaux décourageants des formes nationales en faveur de la protection des droits humains. Et le Conseil devrait plutôt s'assurer d'une continuation du travail de documentation, de suivi de la situation et des rapports publics, ainsi que des débats publics sur la situation des droits humains au Burundi. Et nous demandons à exhorter les autorités burundaises à prendre des engagements concrets pour mettre en œuvre des réformes dans le domaine des droits humains, lesquelles devraient être encadrées par un calendrier précis et mesuré au moyen d'indicateurs de progrès détaillés.
C'était Amer Nyongere de l'ONG ACAT Burundi. À quand la reprise du travail dans les sociétés des jeux de hasard et de paris sportifs au Burundi? C'est la question que se posent les employés de ces sociétés. Ils viennent de passer 2 mois de suspension par mesure administrative, une mesure décidée par le directeur général de la Loterie nationale qui chapeaute le secteur. Ils réclament leur réhabilitation et dénoncent le silence de la direction générale sur ce dossier. On fait le point avec Benny Axelakana.
La suspension de tous les employés de ces sociétés publiques et privées date du 16 juin dernier. La direction de la Loterie nationale a pris cette décision sans en aviser les employés concernés. Ceux-ci ont été désagréablement surpris selon leur dire. Ils viennent de passer 2 mois sans être payés. La direction générale de la Loterie nationale ne répond pas aux approches des employés. Celui-ci s'est confié à notre rédaction.
Le message nous est parvenu en date du 16 juin 2021, nous annonçant que la Loterie nationale du Burundi a obligé la suspension temporaire des activités jusqu'à nouvel ordre. Il y a 2 mois et plus, les conséquences que nous traversons sont nombreuses dans cette ville de Bujumbura où les choses sont chères et on doit louer et manger sans produire. Nous accusons la faute à l'État qui a fermé sans avertissement. Mais notre question pertinente reste toujours à quand la révertir.
D'autres sources du personnel de la société Casino dénoncent l'application de cette décision considérée comme une conséquence d'une gestion frauduleuse à la direction de la Loterie nationale. Une mesure qui, selon les employés, émane de la présidence de la République. Le directeur général de la Loterie nationale que nous avons contacté par téléphone n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Christian Hunzidza a tout simplement indiqué que la décision sera bientôt levée, mais sans être précis sur la date exacte de la reprise des activités de ces sociétés publiques et privées.
Dernier sujet de ce journal, l'utilisation illégale des enfants dans le commerce informel est un phénomène très répandu dans différentes villes du pays. Certains de ces enfants mineurs ont abandonné l'école pour s'adonner au commerce. D'autres sont obligés de travailler durement pour survivre. C'est un reportage signé Delicia Kamikazi.
Il s'agit là des enfants mineurs des provinces du nord du pays. On observe des mouvements des enfants qui pratiquent le commerce et d'autres travaux incohérents à leur âge. Certains d'entre eux sont âgés entre 12 et 16 ans. Ils sont utilisés pour le transport des marchandises dans les places du marché. D'autres font le commerce informel pour les autres, des œufs, arachides, beignets, etc. Nyandi Leonard est un petit garçon âgé de 13 ans. Pendant ses grandes vacances d'été, il vend des œufs pour quelqu'un et il gagne 14 000 francs burundais par mois comme salaire et il est nourri et logé par son patron. Il dit qu'il a choisi son commerce pour gagner de l'argent, qu'il paiera les cahiers car sa famille est vulnérable. Mais son collègue Jean-José Douaille a préféré abandonner l'école pour faire le commerce d'arachides.
J'ai 17 ans, je suis vendeur des arachides pour mon propre compte. J'ai vraiment choisi l'abandon de l'école.
Vincent Dayambagé est notre mineur. Il lui vend des boulettes. Il est payé par rapport à la boulette vendue.
Je vends des boulettes pour quelqu'un, je suis payé sur la vente.
Cet orphelin est âgé de 17 ans. Il a abandonné l'école pour pouvoir gagner sa vie. Il doit louer une maison dans la ville d'Ngozi. Il dit qu'il vit dans une extrême pauvreté. Il interpelle l'administration à venir à son secours pour vivre comme les autres enfants.
Je suis locataire, je vends des arachides, je suis orphelin. J'ai abandonné l'école car je ne pouvais pas trouver de cahier. J'ai été obligé de venir en vie pour chercher comment vivre, pour ne pas passer au vol. Je demande à l'administration de me venir au secours. Je n'ai rien en fait.
Rappelons que les enfants mineurs utilisés dans le commerce informel sont souvent objets de rafles par le département de l'Office burundais des recettes, chargé de lutte contre le commerce informel et la fraude.
Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.